vous êtes là. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Parigo. Oui, je sais, je tiens un parapluie, alors je suis sous un abri de la RATP. Mais au moins, si la pluie arrive, je serai au sec. Car cet abri trop haut, trop ouvert et totalement inadapté, c'est ce qui s'appelle un flop. Même chose pour ces numéros de bus tellement petits qu'il faudrait presque des jumelles pour les distinguer de loin. Et le périph, construit en 1973 pour fluidifier la circulation dans Paris. Est-ce qu'on en parle? Il fut complètement saturé dès son jour d'ouverture. Et la transition JC Deco Smooth & Go, vous vous en souvenez? 2 ans ou presque, sans Vélib qui fonctionne, là aussi, un sacré fiasco. Je pourrais également vous parler d'Autolib, succès populaire incontestable, mais qui laissa derrière lui une ardoise de 75 millions d'euros. Bref, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors l'Île-de-France, terre d'innovation ou terre de prédilection pour les flops? C'est ce que je vous propose de voir avec moi aujourd'hui.
Cette semaine, Parigo rime avec fiasco, trop lent, trop cher, mal fichu, recalé. Bienvenue dans l'entrepôt des flops transports. Et vous allez voir, on s'y bouscule au portillon. Depuis 50 ans, les ratés sont légion, que ce soit sur le bitume, les rails ou même sur l'eau. Aramis devait révolutionner la mobilité urbaine et desservir le sud de Paris avec ses petites cabines autonomes. Mais patatras, le projet a été abandonné en 1987 après 15 ans de recherche et d'essais infructueux. Un flop qui a pourtant permis de lancer la ligne 14 quelques années plus tard. Entretien. Navette autonome, route solaire, véhicule à hydrogène, la route a aussi ses flops. Tour d'horizon des révolutions technologiques inachevées entre promesses non tenues et fausses bonnes idées. Enfin, nous nous interrogerons sur la notion même d'échec. Pourquoi une invention ne trouve-t-elle pas son public? Y a-t-il un point commun entre le Titanic, la DeLorean et l'imposant Fardier de Cugnot? Le commissaire de l'Expo Flop est notre invité.
Un soulagement pour les voyageurs du métro qui empruntent chaque jour les couloirs interminables de la station Montparnasse. Un tapis roulant ultra rapide vient d'être installé. Vitesse de pointe 11 km/h, 4 fois plus qu'un tapis roulant ordinaire.
Attention, danger, c'est le nouveau TGV trottoir à grande vitesse de la gare Montparnasse.
Oh, ça fait peur, c'est impressionnant.
Pourtant, retrouver son équilibre ne devrait être qu'une question de temps.
Il devait nous faire gagner 1 minute 30. Il nous a coûté 5 millions d'euros. Le trottoir à grande vitesse installé ici en lieu et place de ce tapis roulant à Montparnasse aura été démonté 7 ans seulement après son inauguration en grande pompe. Et il aurait pu être nommé flop de l'année 2009. Un exemple parmi d'autres d'innovation ratée depuis 1970 dans les transports. Petite sélection signée Didier Morel.
Le cimetière en est rempli. Des bides, des fours, des flops, autrement dit, des échecs. Comme ces trottinettes électriques partagées, très vite adoptées, car jugées rapides et pratiques. Trop vite sans doute, car proposées en libre service, elles ont envahi les trottoirs. Les piétons sont devenus dingues. Elles étaient garées n'importe où, quand elles ne finissaient pas dans la Seine.
On en remonte quand même une quantité industrielle.
Ces images leur ont été fatales. À Paris, elles sont interdites depuis 2023. Changement d'époque.
À la Défense, un modèle a été expérimenté avec succès l'année dernière. C'est le VEC. Il se déplace latéralement.
Dans les années 70, l'homme moderne est déjà un homme pressé. La solution, le VEC, un système innovant de transport de personnes.
Les constructeurs du VEC ont donc installé des fauteuils sur un trottoir roulant. Le VEC a fonctionné pendant 3 mois à la Défense, à la fin de l'année 72.
5 ans après, à Montparnasse, le VEC, version orange, a fonctionné peu de temps après l'ouverture du magasin de la FNAC.
Personne ne nous passait de commande, on n'avait pas d'argent, et on était fauchés, on était obligés d'arrêter.
Trop tôt, trop nouveau ou trop rapide? Ce n'était pas le problème des Sea Bubbles, bien au contraire. Révolutionnaires, ces navettes faisaient rêver. Leur nom pétillait même comme une bulle de champagne. Mais là aussi, ça a fait pchit. Les raisons?
Ses faiblesses, son manque de stabilité sur un fleuve dont le trafic est important, son manque d'autonomie et les lourdeurs administratives.
Résultat, fin 2025, le projet est définitivement tombé à l'eau avec des dettes abyssales et des déboires judiciaires. Mais parfois, l'histoire n'est pas écrite d'avance.
Un quai bondé, peut-être. Mais attention, c'est exceptionnel pour Orlyval. 3 heures par jour, tout au plus. Une fois sorti des périodes de pointe, c'est le désert, ou presque.
Ce métro entièrement automatique, le premier dans la région, est jugé trop cher pour l'époque. 55 francs le trajet, les voyageurs sont sans pitié.
L'Orlival est très bien. Mais après, il y a une espèce de métro dégueulasse jusqu'à Paris. Hein.
Je crois que les tickets sont très chers, non, on m'a dit.
Je ne comprends rien du tout, comme d'habitude. Je ne sais pas d'habitude, il y a une assistance.
Un an après, ce métro précurseur fait faillite et il est sauvé in extremis par la RATP, qui a racheté sa dette. 30 ans plus tard, les soucis financiers appartiennent au passé, même si son avenir est toujours en sursis.
On se retrouve sur la petite ceinture de Paris, dans le 15e arrondissement, là où était testé entre 86 et 87 ce mini-métro automatique censé révolutionner la mobilité urbaine. Son nom, Aramis, oui, comme le mousquetaire, sauf que celui-ci n'avait pas d'épée, mais des cabines jaunes ou bleues, selon les années, censées amener directement leurs voyageurs à destination sans arrêt superflu. Un concept développé pendant 17 ans par la RATP et par Matra, mais qui ne fut jamais commercialisé. Bonjour Yokami Nagai.
Bonjour.
Vous êtes consultant en mobilité, vous avez très longtemps travaillé à la RATP. Alors Aramis était au top de la technologie à son époque, pourtant il a fait flop. Pour quelle raison ?
Aramis était très voulu. C'était une époque où il y avait deux métros d'un côté, des bus de l'autre, il fallait des modes intermédiaires plus légers. Donc on y croyait, et je crois que les acteurs, le jeu d'acteurs, ne s'est pas assez mis d'accord sur les objectifs. Et puis, du point de vue de l'usage, on n'a peut-être pas regardé assez que, par exemple, comme dans des œufs, quand une famille arrivait sur des œufs, bah, elle acceptait pas de rentrer s'il y avait un inconnu dedans. Résultat, le principe lui-même s'est un peu détérioré. Il est devenu plus primaire. On a fait des cabines plus grandes. C'est devenu quasiment, à la fin, quelque chose qui était une navette omnibus. Et donc, au bout d'un moment, il n'avait plus l'intérêt qu'il suscitait au début des 17 années de conception.
Alors, juste avant qu'on dise stop, eh bien Aramis devait quand même se déployer sur 11 km entre l'emplacement actuel de France Télévisions, dans le 15e arrondissement, Bagneux, la porte d'Italie, avec un objectif, être opérationnel en 92 pour l'Expo universelle qui n'aura jamais lieu. Finalement, tout s'arrête aux alentours de 1986, juste après le changement de majorité gouvernementale et la nomination de Jacques Chirac à Matignon. Est-ce que ça a été le coup fatal ?
Peut-être que l'atmosphère en faveur du transport public n'était plus la même. C'est le clash entre un projet de recherche et, d'autre part, un projet avec un aboutissement absolu en 1992, qui a rendu les choses vraiment très difficiles, puisqu'il fallait que tous les problèmes soient réglés. La RATP voulait un système de sécurité absolu, et il y a certaines choses qui n'arrivaient pas à être résolues. Donc plus on se rapprochait de cette échéance, plus on se rendait compte qu'il fallait réinvestir pour mettre au point des choses, et à un moment donné, ça a fait clash.
Ces 17 années de recherche n'ont pas été inutiles, parce qu'en fait, grâce aux technologies développées pour Aramis, eh bien, on a pu lancer assez rapidement Météor, c'est-à-dire la ligne 14.
En 87, quand ça s'est arrêté, on s'est dit « bon, bah, c'est un flop ». Sauf que l'ingénierie avait engrangé énormément de choses réexploitées dans les autres projets que tout le monde connaît aujourd'hui.
Alors ce concept de mini-métro automatique, il a été récemment repris par Urban Loop, avec ses petites cabines bleues qui ont été testées juste avant les Jeux Olympiques de 2024 à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et qui devrait être installé dans le centre-ville de Nancy en 2028. Est-ce que pour vous, c'est un futur flop ?
Je pense que dans les caractéristiques, c'est quelque chose de beaucoup plus léger et que la technologie a beaucoup évolué et qu'ils ont des chances de réussir. Mais attention, la confrontation au réel, c'est-à-dire à l'insertion dans l'espace public et ensuite au maintien du service dans la durée, dans la maintenance, ça sera des défis et il faut qu'ils soient au rendez-vous.
Merci beaucoup, Yokami Nagai, pour toutes ces précisions. Maintenant, on va quitter les transports en commun, direction la route. Vous allez le voir, les fiascos sont Légion, petit florilège, signé Antoine Marguet et Mélissa Genois.
C'était une idée lumineuse et française, bien sûr. En décembre 2016, Ségolène Royal, alors ministre de l'écologie, inaugure la route solaire. Une voie d'1 km où le bitume a été remplacé par des panneaux solaires, brillants forcément. 5 millions d'euros investis pour cette expérimentation en Normandie. Et au final, un flop monumental pour de nombreuses raisons.
Les panneaux solaires ne sont pas bien orientés pour capter les rayons du soleil. La circulation automobile ou l'accumulation des salissures crée de l'ombre et réduit encore ce rendement énergétique.
Aujourd'hui, l'État a jeté son dévolu sur une autre solution, une route à induction où les camions électriques peuvent se recharger tout en continuant de rouler. Un test est en cours sur l'autoroute A10 en Île-de-France et 9000 km de voies pourraient être équipées dans les prochaines années. Autre innovation qui a fait un flop, les navettes autonomes. Ces véhicules sans chauffeur qui devaient permettre d'exploiter de petites lignes à moindre coût. En 10 ans, la RATP a lancé 19 expérimentations, mais aujourd'hui, il n'en reste qu'une seule et toujours pas de démocratisation en vue.
On était vraiment sur de l'expérimentation technologique et donc on n'adressait pas réellement la demande à des usagers.
Petite consolation, mais du côté des bus autonomes, un peu plus long, la ligne 393 dans le Val-de-Marne vient tout juste de s'arrêter, mais un autre test vient d'être lancé à Bonneuil-sur-Marne. Mais là aussi, le service n'est pas complètement opérationnel. La ligne ne transportera pas de passagers. Et pire encore, le service sera interrompu en cas de forte pluie ou de neige, car la technologie est encore incertaine. Enfin, un flop pour les voitures. L'hydrogène a longtemps été présenté comme un carburant propre et rapide pour recharger des véhicules. Mais aujourd'hui, les voitures électriques et leur recharge rapide ont changé la donne. Plus de stations, plus de modèles en concession et surtout des prix beaucoup moins chers. Résultat, Hype, la compagnie taxi qui avait misé sur l'hydrogène, est passée aux batteries électriques, bien plus rentable.
On se retrouve au Musée des Arts et Métiers avec vous, Jean-Baptiste Tell. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le commissaire de l'expo Flop qui raconte le fabuleux destin, finalement, des innovations ratées. Et elles sont nombreuses, à l'image de ce vélo plastique qui est pliable malgré lui. Vous estimez que 9 innovations sur 10 échouent. Et rassurez-nous, ça ne concerne pas que le domaine des transports.
Non, il y a beaucoup de flops ailleurs que dans les transports. On en a, on peut citer les jouets, il y a des jouets dangereux, des fléchettes de jardin qui ont tué des gens. On peut citer les cosmétiques avec la crème Toradia, qui est une crème au radium, parce que c'est la grande mode du radium. Donc on se met à faire des cosmétiques irradiés. On a des exemples de sondes martiennes qui se crashent parce que la NASA utilise le système métrique international, mais que le fabricant utilise le système américain. Donc beaucoup de façons, beaucoup de raisons de rater.
Et concernant les transports, quels sont vos flops préférés ?
Le fardier de Cugnot, c'est le premier véhicule avec sa propre énergie, première automobile, mais on est au 18e siècle. On n'a même pas de route pour le faire fonctionner. Il est très très lourd, ça pèse 5 tonnes et il suffit qu'il ait plu pour que le véhicule s'embourbe. Et puis de toute façon, il faut 3 heures pour le faire chauffer. Il n'a qu'une heure d'autonomie, il avance à 3 km/h. Les commanditaires, en l'occurrence c'était l'armée, laissent tomber et préfèrent le laisser au garage. Il y a le Titanic qui a été conçu pour ne pas couler, qui a quand même coulé. La DeLorean, la voiture mythique de Retour vers le futur, qui en fait est une voiture normalement de sport, mais qui est sous-motorisée avec des finitions bâclées qui conduisent à la faillite du constructeur très très rapidement. On se rend compte qu'il suffit d'un grain de sable pour que ça rate. Alors le grain de sable, ça peut être effectivement une mauvaise communication. La Renault 14 qui a été lancée comme ça, avec une campagne de pub qui l'a comparée à une poire, les acheteurs potentiels qui entendent qu'on ait des bonnes poires et qui ne l'achètent pas. Donc on a comme ça pas mal d'exemples de transport.
Mais finalement, est-ce que c'est si grave de rater, puisque derrière chaque échec, finalement, il y a quelque chose qui va réussir, même si c'est des années plus tard?
Essayer fait partie du processus pour innover. Et essayer, ça ne garantit pas du tout qu'on va réussir du premier coup. On va faire des prototypes, on fait des essais, on essaye de comprendre. C'est comme ça que ça avance.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste Tell, d'être venu dans Parigo. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et on se quitte sur les images d'un dernier fiasco, celui du SKS mini-métro, construit en 1993, qui n'a jamais accueilli personne alors qu'il devait relier le RER A du côté de Noisy-le-Grand à un quartier d'affaires qui n'a jamais vu le jour. Résultat, 10 millions dépensés pour rien. Allez, salut!